France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
On a beau aimer la philosophie, il faut bien reconnaître que la lecture de la plupart des œuvres majeures est une entreprise laborieuse. Difficile de prétendre avoir lu d'une traite, posée au bord d'une piscine, et avec délectation, la phénoménologie de l'esprit de Hegel. Compliqué de s'imaginer une autre façon de lire la critique de la raison pure de Kant que dans une bibliothèque ou sur un bureau, annotant furieusement une copie dans la perspective d'un mémoire, d'une thèse ou d'un concours. Il y a évidemment un certain plaisir à ces lectures, parfois même esthétique, mais la rencontre de cette prose opaque et jargonnante avec l'esprit du lecteur, aussi cultivé soit-il, n'est jamais une chose facile et évidente. Il existe pourtant des œuvres philosophiques, pour ainsi dire, touchées par la grâce, où une prose accessible, voire poétique, rencontre des idées profondes, originales, novatrices, telles que l'expérience de lecture est comparable au bouleversement produit par un grand roman, ou un poème qui fissure et illumine l'âme. C'est le cas de L'œil et l'esprit de Maurice Merleau-Ponty, écrit au bord de la piscine dans la campagne provençale en 1960, moins d'un an avant sa mort soudaine. Partant de la distinction entre la science et l'art, Merleau-Ponty vient redéfinir la notion de vision et le rapport au corps dans un livre inclassable, dont la prose lumineuse est habitée par une singulière poésie, propre à son auteur. Dans ce numéro des Vendredis de la philosophie de Raphaël Enthoven, les philosophes François Georges et Étienne Bimbenet viennent éclairer cette œuvre capitale de la pensée de Merleau-Ponty, qui constitue une contribution majeure à la philosophie de l'art et de la science. Une émission réalisée par Brigitte Bouvier et diffusée pour la première fois le 3 décembre 2004.
Commentaire, L'œil de Merleau-Ponty, une émission proposée par Raphaël Enthoven. S'il s'était trouvé un seul phénoménologue parmi les hommes enchaînés dans la caverne de Platon, il aurait probablement choisi de rester sous terre, même après avoir appris qu'il prenait des ombres pour la réalité. Le phénoménologue, étymologiquement celui qui rend raison des phénomènes ou celui qui discourt sur les apparences, est un philosophe étrange qui, sans douter de la vérité, s'intéresse d'abord aux mensonges qu'elle voudrait dissiper. Si le métaphysicien est une sorte d'astronaute qui voit le monde d'en haut tel qu'il est, le phénoménologue, lui, est un troglodyte savant qui se spécialise dans le faux-semblant, un arpenteur à mi-chemin entre objectif et subjectif et qui mesure avec une règle souple le continent volatile des impressions qui le traversent. À quoi tiennent, chez les philosophes, cette prédilection pour l'obscur et le goût du provisoire? Quelle est la valeur ajoutée du phénomène sur l'idée? À quoi sert le pinceau de Cézanne quand on a Descartes en main? Pourquoi Giacometti quand on a la géométrie? Eh bien parce que la vérité est transparente alors que le monde brille. Parce qu'avant d'être synthétisé, les objets nous sont donnés. Avant d'être pensé, le monde est sous nos yeux, présent comme un cadeau, comme un spectacle fatalement mêlé de nous-mêmes. Chaque chose est immuable, mais chaque chose perçue chemine en chacun de nous, selon l'humeur ou les souvenirs qui s'y attachent. Voyez, être phénoménologue, c'est destituer la pensée théorique du monopole de la compréhension du monde, c'est préférer les trompe-l'œil savoureux au squelette exact de la science, c'est savoir enfin qu'à trop subir les lois de l'esprit, le monde finit par rendre l'âme. La phénoménologie, c'est une philosophie pour artistes, une philosophie de vivant. Car vivre est un verbe ambigu qui désigne à la fois le fait d'être en vie et l'acte de vivre quelque chose, qui témoigne d'une solidarité mystérieuse entre l'être au monde et l'art d'en être le spectateur. Vivre, c'est être simultanément dans le monde et hors de lui, et contenir par un miracle précaire dans un même geste l'intime et le lointain. Comme dit Merleau-Ponty, voir, c'est avoir à distance ou incorporer le monde mais sans jamais le contraindre. Quelle expérience plus obscure et évidente à la fois que celle de rencontrer le monde dont on fait pourtant déjà partie. C'est ce que décrit Maurice Merleau-Ponty dans L'œil et l'esprit, ce petit texte magnifique, rédigé dans la maison d'un peintre pendant l'été 1960, à côté d'une piscine au milieu des cyprès, quelques semaines avant de mourir, tel le testament qui s'ignore d'un homme qui tenait au monde comme à la prunelle de ses yeux, et dont nous parlerons aujourd'hui avec les philosophes que sont François Georges et Étienne Bimbenet.
La science manipule les choses et renonce à les habiter. Elle s'en donne des modèles internes et ne se confronte que de loin en loin avec le monde actuel.
Elle a toujours été, cette pensée admirablement active, ingénieuse, désinvolte. Ce parti pris de traiter tout être comme objet en général, c'est-à-dire à la fois comme s'il ne nous était rien, et se trouvait cependant prédestiné à nos artifices.
Penser, c'est essayer, opérer, transformer, sous la seule réserve d'un contrôle expérimental où n'interviennent que des phénomènes hautement travaillés et que nos appareils produisent plutôt qu'ils ne les enregistrent. De là, toutes sortes de tentatives vagabondes.
Qu'est-ce qu'il entend par la science manipule les choses et renonce à les habiter ? Étienne Mabenet.
Moi, je crois que c'est d'abord une phrase d'époque. C'est-à-dire que c'est une phrase qui résonne tout à fait en 1960, au terme d'une décennie qui s'est angoissée, on pourrait dire, pour la mort atomique, qui a beaucoup débattu autour de la toute-puissance de la science et de la technique, autour en particulier d'un certain paradoxe que Günther Anders a souligné, c'est cette honte prométhéenne d'un homme qui est à la fois tout-puissant par sa technique et sa science, et en même temps
extraordinairement vulnérable
et incroyablement vulnérable dans sa pratique et dans ses décisions finales.
C'est-à-dire qu'il est rendu vulnérable par sa propre puissance.
Voilà. Paradoxe, qui est au cœur de tous les débats de cette époque, si bien que on a un certain nombre de réflexions de philosophes comme Heidegger en premier lieu, qui réfléchit sur la technique. Et c'est vrai qu'on a souvent reconnu dans cette phrase un ton heideggerien. La science manipule les choses et renonce à les habiter. Le thème de l'habitation, c'est très heideggerien. C'est moins la technique elle-même qui est en cause qu'une attitude générale face au monde, un certain rapport au monde ou à l'être, qui serait vicié ou perverti depuis...
Par l'utilisation technique que nous faisons du monde qui nous entoure.
Par une forme d'activisme en quelque sorte de la pensée qui voudrait convoquer toute chose à la présence, la convoquer à travers ses lois, son étendue mathématique, faire de toute chose une chose disponible pour la pensée. Bref, un activisme scientifique et un activisme plus généralement de la subjectivité occidentale qui voudrait arraisonner, provoquer, c'est le mot qu'emploie Heidegger, provoquer toute chose pour la rendre disponible. Alors il me semble que... Chez Merleau-Ponty, on a un écho assez flagrant de cette attitude qui à la fois stigmatise un activisme de la technique et de la science, la science comme manipulatrice des choses, et en même temps tente de revenir à une habitation plus sereine au cœur du monde, dont sans doute la peinture serait le geste fondamental.
Il faut que la pensée de science, pensée de survol, pensée de l'objet en général, se replace dans un « il y a » préalable, dans le site, sur le sol du monde sensible et du monde ouvré tel qu'ils sont dans notre vie, pour notre corps. Non pas ce corps possible dont il est loisible de soutenir qu'il est une machine à information, mais ce corps actuel que j'appelle mien, la sentinelle qui se tient silencieusement sous mes paroles et sous mes actes.
L'œil et l'esprit est une merveille de langue française. C'est un texte admirablement écrit,
François Georges,
et qui nous fait énormément regretter, évidemment, que Merleau-Ponty soit mort, ayant à peine ébauché cet ouvrage auquel on a donné le titre « Le visible et l'invisible ». C'est un texte superbe, avec le minimum de notes en bas de page, aussi peu académique que possible. Mais pour en revenir à notre conversation, c'est aussi dans la lignée de Bergson. Bergson explique comment il ne faut pas voir, par exemple, le mouvement de l'extérieur, mais il faut coïncider avec lui. Alors, je sais bien que Merleau-Ponty a critiqué cette idée de coïncidence. Il n'empêche que là, il est assez proche de ce que dit Bergson, par exemple, dans La pensée et le mouvant.
Il faut qu'avec mon corps se réveillent les corps associés, les autres, qui ne sont pas mes congénères, comme dit la zoologie, mais qui me hantent, que je hante, avec qui je hante un seul être actuel, présent, comme jamais animal n'a hanté ceux de son espèce, son territoire ou son milieu. Dans cette historicité primordiale, la pensée allègre et improvisatrice de la science apprendra à s'apesantir sur les choses mêmes et sur soi-même, redeviendra philosophie.
Je crois en effet qu'on peut pressentir Bergson derrière ce type de phrases qui sont en effet très très belles. C'est une belle littérature philosophique, enfin presque une poésie philosophique. Bergson et puis Husserl peut-être aussi, enfin tous ces penseurs qui, à un certain moment au XXe siècle, et je pense en particulier à la crise des sciences européennes de Husserl en 36, c'est un texte là encore qui est un peu derrière ces premières phrases, ont pris recul par rapport à un activisme scientifique qui ne satisfait plus l'homme, une pensée décapitée de ces questions ultimes, et qui tente de faire retour vers en effet une expérience brute, une expérience vécue, le monde de la vie pour Husserl, hein, la Lebenswelt, le monde vécu, c'est comme ça que Merleau-Ponty traduit et qu'il se réapproprie Husserl, le monde tel que je le vis moi-même, tel que je l'expérimente, avant toute thématisation, objectivation intellectuelle. Je crois que ça c'est le geste fondamental hein, chez Merleau-Ponty qui est en effet très bergsonien, hein, ce retour au vécu en tant qu'il peut me faire comprendre mieux ce que c'est que la science, ce que c'est que ce geste qui tente d'objectiver ou d'idéaliser la nature, comme s'il y avait dans cette nappe de sens brut, comme il le dit, une vérité à entrevoir, à déceler, et que la philosophie devait cheminer dans cette expérience.
Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Or l'art, et notamment la peinture, puise à cette nappe de sens brut dont l'activisme ne veut rien savoir. Ils sont même seuls à le faire en toute innocence. » Où on retrouve cette fois-ci d'ailleurs un vocabulaire non seulement bergsonien mais également nietzschéen sur la question de l'innocence. On peut tout à fait imaginer en somme, dites-moi si je dis des bêtises, que Merleau-Ponty substitue donc à l'activisme scientifique, à cette volonté trop humaine de vouloir se saisir du monde, de vouloir éventuellement lui donner un sens, mais en tout cas l'interpréter selon les grilles de la raison, il substitue une autre forme de vigilance qui est ce que vous appeliez un laisser-être, qui serait une plus grande disponibilité à l'endroit de la merveille du monde, ou d'un monde redevenu merveilleux par un regard de nouveau candide porté sur lui. Mais je voudrais juste revenir un moment sur ce qu'il dit du corps. Il parle de ce corps actuel que j'appelle mien. Qu'est-ce que c'est ce corps qui est le mien ? Pour qui se prend-il, si j'ose dire, ce corps qui est le mien ? De quoi s'agit-il chez Merleau-Ponty quand il parle du corps ?
Là, je crois qu'on est au cœur de ce monde de la vie en tant qu'il résiste à toute pensée pensante, à toute pensée systématisante. « Je suis mon corps », hein, c'est une formule que Merleau-Ponty reprend à Gabriel Marcel, existentialiste, hein, qui part toujours de ce mystère absolu, hein, ce mystère dont aucune science et aucun savoir ne viendra à bout, ce fait que je suis mon corps. Hein. Et le corps, je crois, chez Merleau-Ponty, c'est d'abord cette expérience du mystère et cette exigence ou cette adresse faite à la philosophie de commencer par le mystère et de commencer par reconnaître que tout n'est pas clair, tout n'est pas systématisable et que
tout n'est pas clair quand on part du corps.
Voilà, c'est le mystère au sens, pour Merleau-Ponty, d'un mot qui est très important chez lui et qui n'est absolument pas théologique, c'est le début de toute métaphysique, en quelque sorte. En ce sens que c'est un ensemble de problèmes, la métaphysique, qu'on ne peut pas résoudre comme on résout des problèmes mathématiques, c'est-à-dire comme on détermine une inconnue à partir de termes connus. Vous voyez, le mystère, c'est ce qui ne peut être résolu que par des actes. Comme le sacrifice, comme l'espoir, etc. Pour Merleau-Ponty, l'acte, ou un des actes qui peut cheminer dans ce mystère, c'est la philosophie comme acte, la philosophie humble qui sait qu'elle n'est pas toute puissante, ou encore la peinture.
L'énigme tient en ceci que mon corps est à la fois voyant et visible. Lui qui regarde toutes choses, il peut aussi se regarder. Et reconnaître dans ce qu'il voit alors l'autre côté de sa puissance voyante. Il se voit voyant, il se touche touchant, il est visible et sensible pour soi-même. C'est un soi, non par transparence, comme la pensée qui ne pense quoi que ce soit qu'en l'assimilant, en le constituant, en le transformant en pensée, mais un soi par confusion, narcissisme, inhérence de celui qui voit à ce qu'il voit, de celui qui touche à ce qu'il touche, du sentant au senti. Un soi donc qui est pris entre des choses, qui a une face et un dos, un passé et un avenir.
Et le corps a ce privilège de sentir et d'être senti sentant. C'est ce qu'il dit, François-Georges.
Oui, il y a évidemment une notion de réversibilité, qui est bien indiquée par l'ambiguïté du terme sensible.
C'est-à-dire...
En un mot, je suis sensible à quoi ? Au sensible. Mais ce que je voulais dire aussi dans votre foulée, La phénoménologie de la perception, la première partie s'appelle le corps, et à la fin de cette analyse extrêmement subtile et détaillée du corps, la dernière phrase de cette partie, c'est « l'obscurité gagne le monde perçu tout entier ». Et deuxième partie, c'est le monde perçu. Et donc effectivement, il y a chez Merleau-Ponty, peut-être non pas tellement une volonté d'éclaircir, mais plutôt de décrire ce qui est obscur comme tel. Et alors, il faut revenir à cette phrase en exergue de « L'œil et l'esprit ». Une phrase qui est de Cézanne, « Ce que j'essaie de vous traduire est plus mystérieux, s'enchevêtre aux racines même de l'être, à la source impalpable des sensations. » Donc là, si vous voulez, d'après Cézanne, on a un retour aux racines même, ce qui fait un peu écho donc à la formule de Husserl, « revenir aux choses mêmes ».
Oui, mais alors il parle de la source impalpable des sensations. Or, que je sache, le privilège du corps chez Merleau-Ponty, et d'ailleurs c'est l'évidence, hein, c'est que donc, non seulement le corps sent le monde, perçoit le monde, nous avons 5 sens pour ça, ou 6 ou 7 d'ailleurs, mais bon, non seulement le corps sent le monde, mais il se sent lui-même sentant le monde. Donc en quoi la source des sensations, dont parle Cézanne, est-elle impalpable? Merleau-Ponty s'éprouve lui-même, éprouvant le monde, il se palpe, si j'ose dire.
Mais cela étant, il y a chez Merleau-Ponty un privilège de la vision. Il parle énormément de la peinture, il n'a pratiquement jamais parlé de musique. Justement, il veut saisir la vision. C'est une formule que mon maître Lyotard apprécie énormément, une formule de la phénoménologie de la perception. La vision est une pensée assujettie à un certain champ.
Justement, il y a quand même un vrai problème avec cette histoire de vision. La vision, c'est un sens métaphysique. La vision pose à distance de nous l'objet qu'on regarde. Quand on voit quelque chose, par définition, on ne le touche pas. D'ailleurs, c'est pas un hasard si Schopenhauer parle d'un monde comme représentation. Ce que nous voyons est par là même mis par nous à distance de nous. Le fait de le voir prouve bien qu'on ne le touche pas. Or, ce que fait Merleau-Ponty avec la vision, c'est qu'il dit que la vision est une façon d'accéder au cœur même des choses.
Ce premier paradoxe ne cessera pas d'en produire d'autres. Visible et mobile, mon corps est au nombre des choses. Il est l'une d'elles, il est pris dans le tissu du monde et sa cohésion est celle d'une chose. Mais puisqu'il voit et se meut, il tient les choses en cercle autour de soi. Elles sont une annexe ou un prolongement de lui-même. Elles sont incrustées dans sa chair, elles font partie de sa définition pleine. Et le monde est fait de l'étoffe même du corps.
Moi, je crois qu'il y a d'abord un privilège qui est un peu polémique, si je puis dire. C'est-à-dire que la vision étant traditionnellement et depuis Platon le plus intellectuel de nos sens.
Et oui, parce qu'il faut convertir le regard chez Platon, justement, pour
exactement,
regarder ailleurs. Il s'agit de
la
voir
vision
mieux.
La vision va d'elle-même vers l'idée. Hein. La vision, c'est ce sens éminemment volatile hein, qui est fait pour s'envoler vers le ciel des idées et qui est à l'appui de toute une tradition philosophique de type intellectualiste. Et donc, je crois
et
que Merleau-Ponty.
Surtout, pardonnez-moi, je fais une toute petite parenthèse, mais c'est surtout le sens qui nous soustrait à ce que nous regardons.
Voilà,
ce que
alors,
je vois est pour
justement
moi un spectacle.
Justement.
Donc, j'en fais pas partie, je suis dans la salle.
Justement, la vision postule en quelque sorte un spectateur impartial, un spectateur désengagé de son spectacle. Or justement, ce que Merleau-Ponty va faire valoir contre toute cette tradition intellectualiste hein, d'un spectateur qui n'appartiendrait pas à son spectacle, un spectateur métaphysiquement ou intellectuellement dégagé de ce qu'il voit, c'est au contraire cette énigme fondamentale du voyant visible, c'est-à-dire je suis voyant, je suis un regard, je suis une conscience et pourtant, en même temps, j'appartiens au visible, j'appartiens à l'objet de ma vision. Autrement dit, je suis comme chez Descartes, hein, mais chez Descartes, hein, Descartes qui s'étonne de ce mystère absolu, l'union d'une âme et d'un corps, une âme dans un corps, mais sous la forme d'un mystère absolu. Comment ce corps qui est visible peut-il en même temps se faire voyant? Comment un morceau d'étendu peut-il se faire conscience? Et ça, je crois que c'est le mystère fondamental, hein, ce mystère de la réversibilité qui anime tous les derniers écrits de Merleau-Ponty, hein, qui ne cesse d'affronter ce mystère d'un voyant visible.
Voyant vu.
Voyant vu par autrui. Alors, il me semble qu'il faudrait tout de même préciser une chose. Quand on dit le voyant est en même temps visible, on pourrait le comprendre naïvement, c'est-à-dire je vois et en même temps je suis un corps, et en même temps je suis dans un corps. C'est ce qui me semble, au fond, l'évidence. Il est bien évident qu'il faut un corps pour voir, et que pour voir, il faut des organes sensoriels, et donc un corps qui en soi est visible. Je ne crois pas que ce soit exactement ce que dit Merleau-Ponty. Merleau-Ponty dit un peu plus. Pour voir les choses, il faut en même temps que mon corps se voit. Il faut que mon corps s'aperçoive comme une partie du visible. Et cette opération très particulière qui consiste à voir les choses et en même temps à se voir, à faire que je suis invisible parmi les choses, c'est une opération très particulière qu'aucun corps animal ne peut accomplir.
C'est pour ça qu'il imagine le cas d'école où un corps ne se verrait pas lui-même.
Oui, oui. Un corps divin, on pourrait dire, un corps glorieux, ou un corps au fond animal, c'est-à-dire que l'animal est tout entier à son spectacle, il voit les choses, mais il n'est pas comme ce corps humain qui, passant par l'épreuve de la fusion avec la mère, l'épreuve du miroir, c'est-à-dire le fait de se voir comme invisible parmi les visibles, l'épreuve des identifications humaines, où je m'aperçois en autrui, où je vais hanter plus d'un corps, toutes ces épreuves humaines, toutes ces épreuves anthropogènes, en ce sens qu'elles font l'homme, elles fabriquent l'homme, toutes ces épreuves où je m'aperçois visible parmi les visibles, où mon corps est invisible parmi d'autres, indévisible autour de moi, eh bien c'est ce qui fabrique en quelque sorte cette énigme d'un voyant qui est en même temps visible.
François-Georges.
La vision est essentielle pour Merleau-Ponty, et donc la peinture, alors que pour son ami Jean Kélévitch, c'était quand même des amis, c'est plutôt l'audition qui est le sens métaphysique, et la musique qui est matière à réflexion philosophique.
La musique parle immédiatement un langage qui nous transporte ailleurs, dans un monde inconnu, et en des termes également indicibles, n'est-ce pas ? Bergson pense et dit souvent que le langage est une forme bâtarde, dégénérée, dérisoire et inefficace de l'action, peu convaincante. Il n'a pas beaucoup de considération pour ce qu'il appelle « homo loquax », l'homme loquace. Les choses les plus importantes sont faites pour qu'on les fasse et ne sont pas faites pour qu'on les dise. Et c'est peut-être le lien qui existe entre Bergson et la musique qui impose silence au logos, au discours, et qui est une manière de ne pas dire, mais de faire et de suggérer aux hommes en faisant appel aux puissances de l'émotion. Ce n'est pas la musique qui introduit en nous des sentiments, mais c'est nous qui sommes introduits par elle dans les sentiments, comme un passant qui entre dans une danse.
L'idée de Merleau-Ponty, c'est que le regard, la vision, se fait dans la chair même des choses. Et parce qu'il oppose...
Qu'est-ce que vous voulez dire dans la chair même des choses ?
Eh bien, au fond, il y a chez lui une sorte de nostalgie de l'enfance. L'idée qu'il faut en revenir à un espace qui n'est pas euclidien, qui n'est pas justement, selon la formule latine, partes extra partes, c'est-à-dire extériorité pure. Non, un espace qui comporte lui-même l'intériorité, qui est l'espace primordial, qui est l'espace polymorphe. Et là, la pensée philosophique rejoint l'aventure de la peinture moderne.
Si je vous comprends bien, ça veut dire que ce qu'il appelle l'espace, ou ce qu'il peut appeler aussi la chair du monde, peut-être, c'est un mélange de perception, donc qui suppose la distance, mais comme le voyant est lui-même visible, cette distance est aussitôt abolie, et par conséquent, on voit les choses à la fois de loin et en même temps de l'intérieur. Dans le texte qu'il consacre à Cézanne, dans Sens et non-sens, Merleau-Ponty parle de ce qu'Émile Bernard appelle le suicide de Cézanne, en parlant d'une peinture paradoxale. Il dit que Cézanne recherche la réalité sans pour autant quitter la sensation, sans prendre d'autre guide que la nature dans l'impression immédiate. Et de là, un jeu très étrange avec les perspectives chez Cézanne. On n'est plus chez Holbein ou bien chez Canaletto, c'est-à-dire on sort d'une perspective impeccable pour rentrer dans une perspective qui certes est perspective, on voit les choses en perspective, mais en même temps la perspective est un peu fausse, les contours de la table ne sont pas exactement comme la mathématique nous indique qu'ils devraient être représentés, le contour même des verres qui sont posés sur la table est singulièrement évasé, précisément parce que Cézanne ménage dans la perspective à la fois le caractère mathématique de la représentation en perspective du réel, et en même temps son caractère sensible, incarné, ému, éprouvé. Est-ce que ça veut dire donc qu'on est dans un entre-deux ? Est-ce qu'on réconcilie quoi, le phénomène et la science ? Est-ce qu'on bannit la science au profit du phénomène ? Comment ça marche ? Et pourquoi Cézanne plus qu'un autre ?
Je crois qu'on est vraiment dans l'entre-deux, comme vous le dites, c'est-à-dire Cézanne, dit Merleau-Ponty, dans ce doute de Cézanne, tente d'aller à l'objet, mais par la sensation, par le subjectif, par l'esthétique impressionniste. C'est-à-dire qu'il part de ce qui s'oppose le plus à l'objet, c'est-à-dire l'expérience dans ce qu'elle a de plus erratique, dans l'expérience des couleurs, dans l'expérience de la lumière au sens impressionniste, et il tente d'aller néanmoins à l'objet. Il tente de dire la réalité et de fonder quelque chose.
Ce que vous dites quand vous parlez d'objet ou de réalité, c'est cette fois-ci c'est l'objet construit par la science.
Voilà. Et donc en quelque sorte, on pourrait dire qu'il part d'une certaine déraison, la déraison du sentir et de, dans ce qu'elle a de plus subjectif ou de plus impressionniste, pour rejoindre quelque chose comme une raison, rejoindre quelque chose comme du communicable. Cette peinture de Cézanne, ce serait l'essai de, en partant de ce que j'ai de plus propre, d'aller vers tous les autres. Et cette tentative, au fond, elle aurait pu prendre, en effet, Merleau-Ponty le dit très bien, elle aurait pu prendre les voies classiques de la perspective planimétrique, c'est-à-dire, au fond, les voies de la science. C'eût été possible, c'est comme ça que la peinture classique va à l'objet, va à l'universel, c'est comme ça qu'elle se construit, mais... dit Merleau-Ponty, à partir de Cézanne, on ne peut plus aller à l'universel, on ne peut plus aller vers autrui dans la peinture en passant par ce type de moyens objectifs. Il faut en passer par l'être brut, l'être dans ce qu'il peut avoir de plus erratique, dans ce chaos de sensations que Cézanne explore. C'est de là qu'il faut partir pour construire une peinture. Avec toujours le risque qui guette Cézanne, d'où ce doute constant de Cézanne, le risque du chaos. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui est au fond...
C'est-à-dire le risque que le perceptif prenne le dessus sur une science qu'il réprouve, en fait, en son principe.
Le risque de Fraunhofer, en fait, c'est le chef-d'œuvre inconnu.
Fraunhofer, c'est le peintre du chef-d'œuvre inconnu
voilà,
de Balzac. Oui.
Qui chemine toute sa vie dans la plus grande obstination. C'est la recherche obstinée d'une peinture du chef-d'œuvre et de la peinture parfaite. Et puis, on s'aperçoit à la fin qu'il n'a accouché que d'un chaos de couleurs.
Avec un petit pied.
Avec un pied qui dépasse.
Un pied qui émerge d'un chaos indescriptible et que finalement tout ça s'abolit dans la destruction même de ses œuvres. Mais si précisément ce qu'on dit n'est pas clair, c'est aussi probablement parce que l'objet que se donne Merleau-Ponty n'est pas clair, n'a pas la clarté ou la limpidité de la science. Mais on pourrait jouer sur le double sens de perspective. Qu'est-ce que vous en pensez l'un et l'autre? La perspective, c'est à la fois effectivement la représentation mathématique du réel, selon un sujet, mais un sujet qui aurait une prétention légitime à l'objectivité. Voilà. Je vois les choses de là où je me trouve, mais je peux représenter objectivement ma perception du monde selon des lois qui obéissent à la mathématique, à une géométrie euclidienne. Et en même temps, la perspective, ben, c'est quoi? C'est le point de vue, tout simplement. Une certaine perspective sur le monde. Donc il y a ces deux sens de perspective. L'un, c'est une géométrie du point de vue, et de l'autre, c'est subjectivité radicale, point de vue absolument singulier, individuel, et finalement on retrouverait ça mélangé dans une même démarche, hein, ce qui justifierait chez Cézanne, ce jeu autour, bon lapsus, ouais, ce jeu autour de la perception des objets.
C'est un problème que Merleau-Ponty connaissait bien. Il avait lu Panofsky, il avait lu Francastel. Et on peut dire que
tous
pour
les théoriciens de la perspective,
tous les grands théoriciens de la perspective. Pour lui, la perspective, c'est le sujet classique qui, en effet, se donne une représentation mathématique, objective du monde. C'est un sujet qui a un point de vue sur le monde, mais qui très vite élude ce point de vue et disparaît pour se donner le point de vue de Dieu, le point de vue de survol, le point de vue absolu. Par la mathématique, je surblombe et je contrôle totalement le spectacle. Contre cette perspective omnisciente ou omnipuissante, Merleau-Ponty fait valoir, au contraire, que le voyant est visible, hein, il appartient au spectacle, il est entrelacé ou inscrit dans le spectacle, et donc il n'a plus ce pouvoir de surplomb et de contrôle sur le spectacle, il est partie prenante, et là il faut en quelque sorte il faut se donner les moyens par bricolage, par une forme d'obstination artistique, par une forme d'inventivité sauvage, de se donner un spectacle. Hein, ce que Cézanne, au fond, aura fait toute sa vie quand il dit qu'il a cherché toute sa vie la profondeur. On pourrait dire que la profondeur, c'est exactement l'équivalent de la perspective, mais sans les moyens de la mathématique classique, sans les moyens cartésiens, vous voyez, de ce regard omniscient.
Donc c'est un paradoxe, c'est un impossible qui justifie d'ailleurs que Fraunhofer brûle ses tableaux à la fin du chef-d'œuvre inconnu. Il s'agit de rechercher la profondeur dans un espace bidimensionnel qui est l'espace du tableau. De la même façon, pour comprendre cette ambiguïté autour de la notion de perspective, on peut citer un exemple qui est la description que fait Victor Hugo de la bataille de Waterloo, où on est dans un hélicoptère en définitive et qu'on voit l'ensemble de la bataille, de ses moindres détails jusqu'au schéma général, alors que dans la description que Stendhal fait de la bataille de Waterloo dans la Chartreuse de Parme, on est à l'intérieur de Fabrice Del Dongo et il ne voit de la bataille que trois cadavres ici. Il aperçoit le maréchal Ney, il regarde une cantinière, il se demande s'il doit provoquer en duel l'un des soldats. Finalement, il n'y comprend rien. Et en fait, le paradoxe ou le mystère consisterait à être l'un et l'autre. à voir les choses dans leur totalité, sans pour autant que ce point de vue n'empiète sur la perception singulière, immanente, sensible.
Sur l'expérience, parce que l'expérience peut avoir de plus déraisonnable et de plus... Oui, absolument.
François-Georges.
Merleau-Ponty est peut-être le premier penseur athée. D'ailleurs, il l'avait dit de sa manière...
C'est contemporain de Sartre, quand même.
Non,
il a écrit 3 siècles après Spinoza.
Mais non, parce que... oui, bien sûr, mais Sartre, on ne va pas parler de Sartre, mais son en soi pour soi, c'est quand même Dieu, tout ça. Bon, il y a une idée de Dieu chez Sartre, même si lui-même n'y croit pas. Mais enfin, justement, il dit, je vais vous démontrer que Dieu n'existe pas. Parce que, donc c'est pour lui, la question se pose. Tandis que pour Merleau-Ponty, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de géométrale reliant les perspectives.
Il n'y a pas d'ensemble, il n'y a pas de perspective absolue.
Voilà, il n'y a pas de point de vue de Dieu.
La nature est à l'intérieur, dit Cézanne. Qualité, lumière, couleur, profondeur, qui sont là-bas, devant nous, n'y sont que parce qu'elles éveillent un écho dans notre corps, parce qu'il leur fait accueil. Cet équivalent interne, cette formule charnelle de leur présence que les choses suscitent en moi, pourquoi, à leur tour, ne susciterait-ils pas un tracé, visible encore, où tout autre regard retrouvera les motifs qui soutiennent son inspection du monde? Je serais bien en peine de dire où est le tableau que je regarde, car je ne le regarde pas comme on regarde une chose. Je ne le fixe pas en son lieu. Mon regard erre en lui comme dans les nimbes de l'être. Je vois selon ou avec lui, plutôt que je ne le vois.
Ça veut dire que la meilleure façon d'appréhender le réel, c'est de s'en tenir très fidèlement, aussi fidèlement que possible, et c'est pas donné, hein, enfin si j'ose dire, c'est de s'en tenir aux impressions que le réel dépose en nous, tout simplement. Et à ce que ces impressions font résonner en nous-mêmes.
Ben oui, c'est ça la perception et la phénoménologie de la perception. Simplement, il faudrait peut-être ajouter ceci, c'est que pour Merleau-Ponty, le réel est gorgé d'imaginaire. Ce rouge que je perçois, bon, je perçois ce rouge comme tel dans ma perception actuelle, et plus ou moins inconsciemment, il renvoie aux robes rouges, aux roches près d'Aix-en-Provence, à la Révolution française, au cardinal de Richelieu, à tout ce que vous voulez.
Donc un objet est riche de ce qu'il évoque pour moi. Est-ce qu'on peut dire ça ?
Il est riche de toutes ces virtualités, qui sont des virtualités imaginaires, en effet. Et puis, tout ce qui, dans le spectacle alentour, vient résonner à distance, vient faire écho à ce rouge. Et si bien que ce rouge, on pourrait dire, il déborde de lui-même, il saigne, c'est un mot que Merleau-Ponty emploie souvent, il déborde de lui-même jusqu'au monde lui-même. C'est-à-dire que le rouge, c'est beaucoup plus que le rouge, c'est le monde du rouge. Il y a un horizon dans le rouge, il y a le monde lui-même.
Ou un rayon de monde, une expression qu'on trouve dans les dernières lettres de Merleau-Ponty.
Est-ce que c'est pour ça qu'il dit que, parlant de la montagne Sainte-Victoire de Cézanne, que c'est la montagne elle-même qui, de là-bas, se fait voir du peintre. C'est elle qui l'interroge du regard.
Que lui demande-t-il au juste ?
De dévoiler les moyens rien que visibles par lesquels elle se fait montagne sous nos yeux. Lumière, éclairage, ombre, reflet, couleur. Tous ces objets de la recherche ne sont pas tout à fait des êtres réels. Ils n'ont comme les fantômes d'existence que visuels. Ils ne sont même que sur le seuil de la vision profane, ils ne sont communément pas vus. Le regard du peintre leur demande comment ils s'y prennent pour faire qu'il y ait soudain quelque chose, et cette chose, pour composer ce talisman du monde, pour nous faire voir le visible.
Ce sensible qui a son modèle, au fond, dans le corps humain ou dans le corps vivant, ce sensible, on ne peut pas dire que c'est moi comme conscience qui vient le percevoir ou qui vient lui donner sens. C'est lui qui, comme un corps humain, s'exprime et fait voir toute sa chair intérieure, tout cet imaginaire qu'il habite. Autrement dit, c'est bien ce sensible lui-même qui se fait voyant, dit Merleau-Ponty, autrement dit, qui se fait lumière, qui permet d'être perçu. C'est lui qui s'ouvre bien davantage que si une conscience de l'extérieur venait l'ouvrir au regard.
Merleau-Ponty ne cherche pas à expliquer, il cherche à expliciter.
C'est-à-dire ?
D'une certaine manière, à décrire. La phénoménologie, c'est une description. Donc,
ça veut dire qu'il ne rend pas raison de quelque chose, mais il le propose, on pourrait dire.
Et il met la littérature quasiment sur le même plan que la philosophie. Et c'est ça qui est d'ailleurs très propre à l'esprit de l'existentialisme.
C'est-à-dire qu'en effet, il part de l'exigence husserlienne qui fonde la phénoménologie, l'exigence de revenir aux choses mêmes, ce qu'on pourrait appeler l'exigence descriptive, autrement dit de rester le plus fidèle possible à l'expérience dans ce qu'elle peut avoir de plus mystérieux. Mais par ailleurs, je pense qu'il va plus loin encore que Husserl dans cette voie. Il parle de manière quasi pascalienne d'une philosophie la vraie philosophie, dit-il, doit se moquer de la philosophie. Pascal disait que la vraie morale se moque de la morale. Pour Merleau-Ponty, la vraie philosophie se moque de la philosophie. Autrement dit, ce qu'elle recherche, ça n'est pas le système, ça n'est pas la rationalisation, ce sont ces expériences vives qui, dans la vie telle qu'elle se fait, la vie telle qu'elle tente de se penser avec ses moyens propres, produisent en quelque sorte du sens. C'est la science telle qu'elle se fait avant qu'elle se théorise, c'est l'art et la littérature, c'est la politique aussi, ce sont toutes ces expériences qui sont des expériences opaques, mais c'est là, c'est dans cette non-philosophie, comme Merleau-Ponty l'appelle, que la philosophie peut trouver une ressource.
Ce qu'on appelle inspiration devrait être pris à la lettre. Il y a vraiment inspiration et expiration de l'être, respiration dans l'être, action et passion, si peu discernables qu'on ne sait plus qui voit et qui est vu, qui peint et qui est peint. On dit qu'un homme est né à l'instant où ce qui n'était au fond du corps maternel qu'invisible virtuel se fait à la fois visible pour nous et pour soi. La vision du peintre est une naissance continuée.
C'est-à-dire qu'en fait, l'inspiration, ça n'est plus cette muse qui descend du ciel par une élection, une sorte de grâce divine et qui vient nous inspirer. Mais finalement, c'est tout simplement le fait d'inspirer.
Je crois qu'il y a une référence d'ailleurs assez claire dans cette page sur l'inspiration et la respiration de l'être à Claudel, sur le fait que l'être est respiration, qu'il est tout à la fois activité et passivité, et que s'y percevoir, c'est en même temps se déposséder de soi en direction d'une perception qui serait dans les choses. Autrement dit, s'y percevoir, c'est un acte qui est en même temps une passivité. Alors il y a de la respiration dans notre rapport à l'être. Il y a cette, en effet, à la fois inspiration et expiration, activité et passivité, dans une référence Claudel.
Quand même, celui qui est le plus proche de Merleau-Ponty, en un sens, c'est Proust.
Auquel il a consacré des cours très très minutieux du Collège de France dans les années 50. Il revient très très en détail sur le thème de la jalousie, Albertine. En effet, oui. Mais le thème, on pourrait dire qu'il aimante, qu'il attire chez Proust plus que tout autre, c'est l'idée que nous ne voyons pas la vérité en face, ce que nous voyons, c'est l'idée sensible. Ce sont des emblèmes de l'existence et non pas des idées décharnées en quelque sorte. C'est Swann et Odette qui trouvent l'emblème de leur amour dans une petite phrase de musique, dans la fameuse sonate de Vinteuil. C'est elle, cette petite phrase musicale, c'est ce petit morceau sensible qui va dire l'idée de leur amour. C'est cette idée sensible, bien plus qu'une idée intellectuelle, qui compte au monde de Proust et qui compte au monde de Merleau-Ponty.
Il y a de belles pages dans Le Visible et l'Invisible sur la petite phrase de Vinteuil.
Absolument.
Mais si Merleau-Ponty est proustien, c'est aussi tout simplement parce que Proust distingue la mémoire volontaire, qui est une volonté, donc, comme son nom l'indique, de se saisir d'un souvenir, de le ressusciter, de lui donner corps, de lui donner un sens, de la mémoire involontaire, qui donc n'a pas cette espèce de frénésie ou de volonté, mais qui, du coup, est beaucoup plus disponible à une somme bien supérieure de souvenirs, et d'une autre nature. La mémoire involontaire chez Proust, c'est le biais par lequel on accède véritablement au cœur des choses. Alors que la mémoire volontaire, parce qu'elle est volontaire, finalement fait reculer les choses. C'est comme si on terrifiait le monde à force de vouloir le saisir. Alors que si on tendait la main, au lieu de vouloir l'attraper avec la main, si on tendait la main, peut-être le monde viendrait se poser dans la paume de la main. Il y a un thème très proustien là-dedans.
Et on est à l'opposé ici de la science qui est en procès dans le premier chapitre de l'ouvrage, cette science qui manipule les choses, qui est hyperactiviste et qui voudrait faire de toute chose sa chose. Ici, avec cette passivité de la mémoire proustienne, on est à l'opposé, c'est-à-dire que c'est les choses qui doivent m'enseigner ce qu'elles sont.
C'est qu'en fait, le philosophe ou le poète ou, je sais pas, Merleau-Ponty, donc l'un et l'autre, mettons, est comme une page blanche, à l'intérieur duquel s'écrit en creux le monde aussi fidèlement que possible, vu que Il se confond, lui, avec le monde, mais il ne confond pas le monde avec ce qu'il veut y voir. Donc, du coup, le monde s'inscrit en lui de façon souveraine.
C'est ça le début de la recherche du temps perdu. Si on veut comprendre ce que Merleau-Ponty entend par le corps-sujet, je crois qu'il faut se reporter aux premières pages de la recherche du temps perdu.
Mais ça, c'est extraordinaire, parce que ça veut dire qu'il faut être dans le monde, savoir qu'on est dans le monde, qu'on fait partie du monde et qu'on ne peut pas en sortir, pour ne pas le confondre avec nous-mêmes. Pour finalement le percevoir dans sa plus grande précision, dans sa plus grande acuité, etc. Plus on
s'enfonce dans ce,
plus
dans
on s'enfonce dans le magma perceptif du sensible et qu'on n'en sort pas et que le corps est voyant et vu et visible, etc. Plus on est à l'intérieur du réel, plus on assume notre corps, le fait d'avoir un corps qui nous situe dans le monde et qui fausse nos perceptions, plus on perçoit le monde dans ce qu'il est, enfin, plus précisément, on perçoit le monde. Est-ce qu'on peut dire ça?
Oui, il y a un thème dans l'esprit qui dit exactement ce paradoxe d'une opacité qui au fond, ou d'une incarnation qui, au fond, serait la première lumière naturelle et notre première insertion dans le vrai. C'est un thème auquel Merleau-Ponty dit qu'il est le thème, au fond, que toute la peinture contemporaine recherche. C'est le thème de la profondeur. La profondeur, c'est je suis parmi les choses, je suis un point de vue sur le monde. Du coup, eh bien, les choses se cachent les unes les autres, hein, je ne les vois pas par survol. Et pourtant, c'est le fait d'être inscrit dans les choses qui me les donne à voir. C'est
d'où le carrelage du fond de la piscine.
Oui, on retrouve le carrelage. Mais c'est cette dissimulation des choses qui, au fond, les révèle. Vous voyez, c'est cette obscurité qui, au fond, les éclaire. C'est ce paradoxe-là d'une finitude qui, au fond, est le seul moyen pour nous, maintenant, au XXe siècle, et en effet, là, il y a un athéisme qui est profond, cette finitude, cette incarnation qui est pour nous, au XXe siècle, la seule manière d'aller vers le monde.
Quand je vois à travers l'épaisseur de l'eau le carrelage au fond de la piscine, je ne le vois pas malgré l'eau, les reflets, je le vois justement à travers eux, par eux. S'il n'y avait pas ces distorsions, ces zébrures de soleil, si je voyais sans cette chair la géométrie du carrelage, c'est alors que je cesserais de le voir comme il est, où il est, à savoir plus loin que tout lieu identique. L'eau elle-même, la puissance aqueuse, l'élément sirupeux et miroitant, je ne peux pas dire qu'elle soit dans l'espace. Elle n'est pas ailleurs, mais elle n'est pas dans la piscine. Elle l'habite, elle s'y matérialise, elle n'y est pas contenue. Et si je lève les yeux vers l'écran des cyprès où joue le réseau des reflets, je ne puis contester que l'eau le visite aussi, ou du moins y envoie son essence active et vivante. C'est cette animation interne, ce rayonnement du visible que le peintre cherche sous les noms de profondeur, d'espace, de couleur.
Texte fameux, hein, c'est un texte fameux. Moi je connais des Merleau-Pontiens fervents qui sont allés se recueillir devant cette piscine. D'ailleurs, s'ils avaient été Merleau-Pontiens jusqu'au bout, ils s'y seraient baignés, ils auraient fait cette expérience corporelle et non pas simplement visuelle.
Ou ils se seraient recueillis devant une autre, non?
Ou une autre, peut-être, parce qu'elle est partout, cette piscine. Alors, c'est vrai qu'elle est,
c'est un
texte fameux, parce
qu'il
dit tout de l'œil et l'esprit. C'est-à-dire que, il y a d'un côté le carrelage, et ça, c'est vraiment Descartes, hein, c'est l'étendue géométrique qui prétendrait nous dire ce que c'est que cette piscine.
Oui, avec les carrés.
Et avec les carrés au fond de la piscine. Et puis, beaucoup plus essentiel que cette étendue géométrique, pour Merleau-Ponty, il y a l'élément miroitant, instable, chaotique de l'eau. L'eau comme élément, c'est-à-dire l'eau qui est ici et en même temps partout ailleurs, qui vient miroiter sur les cyprès, qui peut en même temps évoquer tout un imaginaire, l'eau de mon enfance, l'océan de mon adolescence, etc. C'est-à-dire que cette eau, elle est partout et nulle part, elle rayonne autour d'elle-même. Elle fait miroiter le monde entier autour d'elle. Il y a un monde de cette eau et en même temps un monde imaginaire. Autrement dit, on est tous sauf dans une étendue cartésienne où les choses sont à leur place, restent sagement à leur place.
Il y a le fameux exemple cartésien du bâton brisé, du bout de bois brisé.
Celui comme si l'eau, voilà.
Dans l'eau. Et alors on se dit, voilà, alors Descartes dit, voilà, on met un bout de bois dans l'eau et on le voit brisé. Bien, la perception est fausse, il faut s'en détacher, il faut calculer l'indice de réfraction pour bien comprendre que le bout de bois n'est pas brisé. Alors Merleau-Ponty, lui, il se situe en deçà de ça.
Oui, tandis que Alain, proche de Descartes, dit « ma raison le redresse aussitôt ».
Voilà, c'est ça. Mais alors la raison de Merleau-Ponty ou la déraison de Merleau-Ponty, c'est de dire que ce qu'il a sous les yeux, c'est un bout de bois brisé.
C'est ça qui m'intéresse. Oui, c'est de jouer l'eau contre le bout de bois rectiligne. Oui. C'est de jouer le prestige de l'apparence. Cette eau chatoyante qui brise le bâton plutôt que le bâton cartésien.
Ça l'intéresse plus qu'un bâton qui, en fait, n'est pas brisé.
Oui. Absolument.
Merleau-Ponty a commenté une anecdote. C'est que Matisse peignait un paysage marin, je crois que c'est Matisse, devant un ruisseau.
Et les femmes de Matisse n'étaient pas immédiatement des femmes, elles le sont devenues. C'est Matisse qui nous a appris à voir ses contours, non pas à la manière physique-optique, mais comme des nervures, comme les axes d'un système d'activité et de passivité charnelle. Figurative ou non, la ligne, en tout cas, n'est plus imitation des choses, ni chose. C'est un certain déséquilibre ménagé dans l'indifférence du papier blanc. C'est un certain forage pratiqué dans l'en-soi, un certain vide constituant. La ligne n'est plus comme en géométrie classique l'apparition d'un être sur le vide du fond. Elle est comme dans les géométries modernes, restriction, ségrégation, modulation d'une spatialité préalable.
Dans L'œil et l'esprit, Merleau-Ponty parle des femmes de Matisse. Il dit ceci, il dit « Les femmes de Matisse n'étaient pas immédiatement des femmes, elles le sont devenues. » C'est-à-dire que les traits, les quelques traits des femmes de Matisse laissent imaginer, à la façon dont le rouge peut saigner, laissent imaginer toute une vie derrière et qu'en fait, la suggestion a plus de pertinence pour l'esprit et plus stimulante pour l'esprit que la transparence diaphane, c'est ça que ça signifie, les femmes de Matisse?
Oui, c'est-à-dire qu'elles sont, au fond, elles sont bien davantage que des femmes ou des objets de notre regard, ce sont des dimensions. C'est-à-dire des êtres qui nous font voir plutôt qu'ils sont vus. Ils nous font voir le monde de telle ou telle manière. Il y a une féminité qui nous fait voir le monde sous l'angle du féminin chez Matisse.
Parce qu'au départ, au fond, donc il y a une idée, je ne sais pas si on a déjà employé le mot.
Que trois traits suffisent en fait.
Oui,
oui, mais s'ils sont inspirés, trois traits suffisent.
Il y a l'idée de polymorphisme. Alors donc de ce magma initial, primordial, polymorphe, eh bien il y a certaines formes qui émergent et qui, du coup, exercent leur autorité.
C'est-à-dire?
Eh bien, on perçoit selon elles. Puisque sinon, oui, il n'y a pas de raison de dire que ce que fait Matisse est plus juste, plus vrai que ce que fait Picasso ou les autres peintres.
En d'autres termes, il suffit de quelques lignes, quelques segments, quelques traits bien sentis pour avoir un univers derrière et alors qu'un portrait précis, exact, parfaitement figuratif, finalement sature la perception et l'appauvrit.
Oui, mais ce qu'il y a aussi d'important là-dedans, c'est que du coup, il y a une possibilité d'échapper à la solitude. C'est-à-dire que le peintre peut vous inviter dans le monde tel qu'il le voit, dans son monde à lui, et établir une communication qui dépasse ce phénomène qui n'est pas une doctrine, il y a un solipsisme de fait existentiel. Merleau-Ponty disait, nous sommes condamnés à ce ridicule, le solipsisme à plusieurs.
Le solipsisme à plusieurs, c'est-à-dire que finalement, c'est Michel Berger. Au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde, voilà. Qu'on le veuille ou non. C'est ça le solipsisme à plusieurs dont il parle en l'occurrence. C'est le fait qu'on ne franchit jamais le hiatus qui sépare un humain d'un autre. Alors en quoi est-ce qu'on sort de cette solitude chez Merleau-Ponty?
Eh bien justement, l'œuvre de l'artiste crée un monde commun, un monde, je reprends sa formule, désormais proféré et accessible.
Un monde commun.
Mais c'est-à-dire sans les moyens du monde commun, c'est-à-dire comme Cézanne partant de la sensation et de ce qu'il a de plus personnel dans son rapport au monde, pourtant il lance une peinture dont il espère qu'elle sera comprise des autres et qu'elle pourra faire monde pour les autres, qu'elle sera quelque chose comme un objet commun. Et il espère que sa peinture sera plus que simplement un chaos de sensations personnelles. Autrement dit, c'est comme s'il lançait sa peinture, il y a une très belle phrase de Merleau-Ponty qui dit « Cézanne lance sa peinture comme l'homme son premier cri, en ne sachant jamais si elle échappera au chaos. » Et c'est toujours ce risque que la peinture ne soit que un chaos de sensations personnelles, mais elle est toujours lancée en direction du monde, en direction d'autrui, en direction d'une communication avec autrui, alors même qu'elle part de la sensation, elle part de l'expérience la plus personnelle et la plus sauvage, alors même qu'elle refuse les moyens classique, hein, de la perspective planimétrique, de la science mathématique, alors même qu'elle refuse tous ces moyens classiques. Elle est un peu comme l'enfant qui, avec ses propres moyens, avec son espace topologique, avec son espace sauvage, en quelque sorte, tente de dessiner. Et Merleau-Ponty est beaucoup revenu sur le dessin d'enfant, c'est-à-dire sur ses tentatives de faire un monde, et un monde compréhensible, hein, de s'exprimer et de se faire comprendre à autrui, mais sans les moyens mathématiques, sans les moyens de la science, avec simplement ce bricolage du sensible qui fait qu'un enfant peut produire une peinture compréhensible ou un tableau compréhensible.
Ce qu'il y a dans le dessin d'enfant, selon Merleau-Ponty, mais pas selon Merleau-Ponty seul, c'est l'avis de tout le monde, c'est que l'enfant intègre à son dessin les qualités affectives des choses, donc les qualités des choses telles qu'il les ressent.
C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux façons de communiquer. Une façon de communiquer qui est, par exemple, de se servir du langage et d'employer des mots que tout le monde comprend. Si je vous dis quelque chose, comme on dispose du même langage, vous allez comprendre ce que je vous dis, et vice-versa. Donc il y a là un système, pour le coup, réversible ou commutatif de la communication simple, standard, qui transmet ce qui peut se transmettre. Bon. Et puis il y aurait une autre façon de communiquer, qui serait une façon peut-être plus poétique, plus artistique, qui consiste non pas à rechercher à tout prix à se faire transparent par le langage à l'intellect ou à l'esprit d'autrui, mais à plonger à l'intérieur de soi-même et de ses propres perceptions, donc d'être aussi fidèle que possible à sa perception, donc à son solipsisme, à son être propre, et que cette fidélité à soi aura, peut-être, si elle est aboutie, pour effet d'être universellement communicable.
Mais sous la forme d'une nouvelle universalité.
Une nouvelle universalité, à la façon dont la montagne Sainte-Victoire émeut quiconque la regarde. Le mystère de l'émotion suscitée par la montagne Sainte-Victoire prouve que Cézanne, en somme, ne pensait qu'à lui en la peignant. Est-ce qu'on peut dire ça ?
Oui, je pense qu'on peut dire que, avant Cézanne, la montagne Sainte-Victoire suscitait beaucoup moins d'émotions.
Oui, autrement dit que c'est la nature qui imite l'art, finalement.
L'œil voit le monde. Et ce qui manque au monde pour être tableau, et ce qui manque au tableau pour être lui-même, et sur la palette, la couleur que le tableau attend. Et il voit, une fois fait, le tableau qui répond à tous ses manques, et il voit les tableaux des autres, les réponses des autres à d'autres manques. On ne peut pas plus faire un inventaire limitatif du visible que des usages possibles d'une langue ou seulement de son vocabulaire et de ses tournures.
Instrument qui se meut lui-même, moyen qui s'invente ses fins, l'œil est ce qui a été ému par un certain impact du monde et le restitue au visible par les traces de la main.
Merci François-Georges et Étienne Bimbenet pour cette conversation à bâton rompu sur Maurice Merleau-Ponty. Je rappelle que vous êtes François-Georges, l'auteur d'un très beau livre intitulé « À la rencontre des disparus », publié chez Grasset sous le pseudonyme de Mathurin Mogarlone, et que vous, Étienne Bimbenet, venez de publier chez Vrin un ouvrage indispensable sur son sujet, intitulé « Nature et humanité, le problème anthropologique dans l'œuvre de Merleau-Ponty ». C'était Commentaire, consacré à l'œil et l'esprit, ce chef-d'œuvre minuscule que vous trouverez en folio-essai dans une très belle édition préfacée par Claude Lefort. Merci à Estelle Gapp, à Anne Brissier et Georges Claes pour la lecture des textes, à Brigitte Bouvier pour la réalisation, à Simone Ronger pour la prise de son et Laurent Lepreux pour le mixage.
C'était L'œil de Merleau-Ponty, un numéro des Vendredis de la philosophie diffusé pour la première fois le 3 décembre 2004 sur France Culture.